Un été pas comme les autres.
Évidemment, dans le cas de la COVID-19, on parle beaucoup de théories du complot, de conspirationnistes qui s'inquiètent, là. Évidemment, il y avait les puces à Bill Gates. C'est quand on a vu poindre ces idées d'applications de traçage, là. Donc, des applications qui permettent de savoir si on a été en contact ou qu'on a côtoyé quelqu'un qui avait la COVID-19. Mais là, déjà, certains s'époumonaient là, à décrier l'idée que le gouvernement aille de l'avant avec des applications du genre. Et faut croire que si on va de l'avant quand même, monsieur Trudeau qui en a parlé d'application de traçage au gouvernement provincial également puisqu'on annonce une commission parlementaire sur les applications de traçage numérique dans le cadre de cette pandémie de COVID-19 et on fait une consultation en ligne pour avoir l'avis des gens sur ce type d'application. Quand même, je pense qu'on se lance dans quelque chose. Je pense qu'on va avoir de toutes les couleurs dans l'avis des gens sur ce type d'application. Pour en parler, il est ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale et député de la Pelletrie. Éric Kerr est en ligne. Monsieur Kerr, bonjour.
Bonjour, Monsieur Desureau.
Avez-vous peur de vous embarquer dans quelque chose qui va être un peu compliqué, avoir l'avis des gens sur des applications de traçage?
Ben, au contraire, en fait, ce qu'on veut, c'est justement de consulter la population, mais sur la base d'un dialogue factuel. Et vous me permettrez d'entrée de jeu de faire une correction. Le gouvernement du Québec ne veut pas déployer une application de traçage. Je l'ai dit aujourd'hui dans mon point de presse. Il y a trois conditions qui sont non négociables. Aucune géolocalisation, aucune utilisation de marqueurs biométriques et aucun stockage de renseignements personnels. Donc ça, c'est exclu de la possibilité. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est dans ce contexte-là, sachant ça, est-ce que les Québécois seraient d'accord pour qu'on déploie une application de contact à la COVID-19 qui permettrait de notifier les gens qui auraient potentiellement été en contact avec quelqu'un qui était infecté à la COVID-19, d'en être avisé pour pouvoir prendre les mesures appropriées? C'est ça que le gouvernement veut faire. C'est tout ça, mais c'est pas plus que ça.
Bon, mais qu'est-ce que ça fait, pour être bien précis, là, parce que vous avez dit que ce que ça faisait pas, mais comment ça fonctionne, donc, pour avoir cette alerte-là qu'on a été en contact avec quelqu'un qui est contaminé?
Ben, écoutez, ça se passe en trois étapes. La première étape, si vous téléchargez l'application, donc vous consentez à télécharger l'application, cette application-là, elle, aux 20-30 secondes, va générer un numéro aléatoire temporaire. Alors, si vous entrez en contact avec quelqu'un d'autre qui a l'application, vos téléphones, par la technologie Bluetooth, vont s'échanger ces numéros-là. Et ça, c'est stocké sur votre téléphone et sur votre téléphone seulement. Première étape. Deuxième étape, vous recevez un diagnostic à l'effet que vous êtes porteur de la COVID-19. On vous remet un numéro d'identifiant. Pourquoi? Pour s'assurer que vous ne vous déclarez pas faussement positif. Donc, vous entrez ce numéro-là dans votre appareil. Pourquoi? Parce que vous devez consentir à partager cette information-là. Donc, on s'assure que vous êtes consentant à partager l'information. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La liste des numéros que vous avez générés et que vous avez reçus va s'en aller sur un serveur, comme quoi vous êtes évidemment porteur de la COVID-19. Donc, c'est complètement anonyme. Troisième étape, votre appareil, lui, fait une mise à jour. Donc, va chercher la liste des gens qui ont été contaminés à la COVID-19 et va vérifier si un numéro que son appareil a généré dans les 14 derniers jours se retrouve dans la liste de ceux qui ont été en contact avec un porteur du virus de la COVID-19. Donc, tout le processus est complètement anonyme. Il n'y a aucun échange d'informations personnelles et il n'y a aucune possibilité de retracer les individus qui ont été partie prenante à l'opération dont je vous parle.
Mais, M. Kerr, on a de la difficulté à expliquer à bon nombre de Québécois l'utilité d'un masque là, en disant ben il y a des gouttelettes, puis à travers le masque, les gouttelettes ne passent pas. C'est à peu près simple comme ça. Ce que vous m'avez expliqué là, qui veut pas être de la technologie, on peut pas aller voir dans la programmation d'une application nous-mêmes. Est-ce que vous nous avez menti sur ci ou sur ça? Pensez-vous, vous êtes capable de convaincre assez de Québécois pour que ça vaille la peine d'aller de l'avant?
Ben, vous savez, M. Deschereaux, la première question à se poser, c'est quel serait mon intérêt à vous mentir? Pourquoi je vous mentirais aujourd'hui? Au nom de quelle espèce de bénéfice personnel je pourrais mentir à mes concitoyens? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Donc, à partir de là, ce qu'on comprend, c'est que cette façon-là de faire, elle fait quoi? Elle reproduit ce qui se passe déjà sur le terrain. Pourquoi? Parce que demain matin, M. Deschereaux, vous êtes diagnostiqué positif à la COVID-19. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vous demander de mémoire de retracer l'ensemble des individus que vous avez pu côtoyer dans les 14 derniers jours. C'est ça qu'on fait actuellement. Pourquoi? Pour être capable d'entrer en contact avec ces gens-là, pour leur dire, écoutez, vous avez été potentiellement en contact avec quelqu'un positif à la COVID-19, il serait important que vous vous isoliez, il serait important que vous alliez vous faire tester au plus vite, etc., etc. Donc, pour s'assurer de limiter le potentiel de propagation communautaire.
Mais c'est sûr que ça, je peux pas nommer les gens que j'ai côtoyés dans le métro, effectivement, M. Carr.
Et voilà ce que votre téléphone va être capable de faire, lui, par contre. Et votre téléphone n'aura pas de défaut de mémoire, du moins, on l'espère. Et peut-être allez-vous oublier tel ou tel ou tel individu. Peut-être vous allez vous dire, ben écoute, ça fait-tu 13 jours, 14 jours, 15 jours, je ne sais plus, là. Alors que le téléphone, lui, va garder en mémoire des informations factuelles et précises, tout en respectant votre vie privée et tout en s'assurant de ne transmettre aucune information personnelle. Donc, dans le fond, c'est un outil qui nous permet de faire avec peut-être un peu plus, parce qu'écoutez, là, c'est pas la panacée, puis ça a des limitations, mais avec quand même un peu plus de précision que de simplement dire, écoutez, M. Deschereaux, de mémoire, pouvez-vous me dire qui vous avez côtoyé dans les 14 derniers jours? C'est ça que l'application fait et c'est pas plus que ça.
Combien de taux, disons, d'utilisation on doit avoir pour que ce soit utile, selon vous?
Ben écoutez, moi, ce que je réponds à ça, c'est dans ce sens-là qu'est mon message, le plus grand nombre possible. Je vous donne un exemple. La France, avec 2% de participation, donc de téléchargement de l'application, je veux dire, c'est quelque part entre zéro et nul le bénéfice d'une application si le taux de participation est aussi faible. Maintenant, quel est le taux de participation qui serait vraiment minimum pour que ce soit optimal? Ça, c'est difficile à dire. Et c'est pour ça que moi, ce que je fais, j'invite le plus grand nombre de Québécois dans un premier temps à participer à la consultation, et vous me permettrez de donner le site là, sur
oui,
consultation.québec, consultation.québec.ca. Alors, ça, c'est la première démarche à faire parce que le gouvernement du Québec veut vraiment savoir ce que les Québécois en pensent et si les Québécois sont prêts à se doter de cet outil supplémentaire-là pour lutter contre une éventuelle deuxième vague. Et si la réponse à ça, c'est oui, ben, dans quel contexte les Québécois seraient serait rassuré, puis la question que vous m'avez posée était très pertinente, comment peut-on rassurer les Québécois? Ben, allez sur le site et dites-le nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rassurer? Et pour ceux qui sont pas très chauds à l'idée, ben dites-nous qu'est-ce qui vous empêche d'être chaud à cette idée-là, et si on peut apporter les correctifs nécessaires, on va le faire. Ceci étant, une application comme celle-là n'est efficace que si et seulement si les gens dans un nombre significatif décide d'adhérer à la participation à télécharger cette application-là.
La deuxième vague, M. Kerr, vous l'avez en tête beaucoup au gouvernement et au Conseil des ministres. On a l'impression que là, au Québec, on suit le nombre de cas, c'est assez faible, c'est assez stable. Alors vous, on nous parle de deuxième vague, mais on est moins là. Pour vous, c'est vraiment une préoccupation?
Je pense que le gouvernement du Québec se doit de focusser sur cette possibilité-là, parce que où elle ne se présente pas, puis tant mieux, on aurait fait ça pour rien, et je vous avoue que c'est ce qu'on souhaite, mais où elle va se produire, et à ce moment-là, on sera aussi près que possible, et on pourra limiter les dégâts autant que faire se peut. Puis je pense que c'est ce à quoi on s'attend de la part du gouvernement, ce à quoi les Québécois s'attendent de la part de leur gouvernement. On ne peut pas jouer avec la vie des gens et on n'a pas l'intention de faire ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on consulte la population, on veut savoir ce que la population en pense, parce que si on peut rajouter un outil de plus pour lutter contre la pandémie, ben, dans la mesure où on respecte la vie privée des gens et la protection des renseignements personnels, moi, je pense qu'on se doit d'explorer toutes les pistes de solutions.
En terminant, M. Kerr, on parlait plutôt cette semaine avec Marois Risky du Parti libéral, en fait, de l'opposition officielle qui s'inquiétait de l'utilisation de reconnaissance faciale, d'un logiciel français de reconnaissance faciale qui arrive à la Sûreté du Québec. pourquoi on ferait pas le même exercice que vous faites avec les applications, bon, dans ce cas-là, pour la COVID-19, là, donc une consultation pour savoir l'avis des Québécois. Pourquoi ne pas le faire sur la reconnaissance faciale, sachant que c'est un dossier très sensible?
Ben, écoutez, d'abord, moi, j'ai un certain nombre de choses. J'écoute Mme Risky dans les derniers jours, puis honnêtement, je trouve ça triste, parce que si le sujet est important, et il l'est, je pense qu'il mérite d'être traité aussi de façon aussi factuelle que possible. Le problème, c'est que tout l'argumentaire de Mme Risky est basé sur des exemples qui se sont passés à l'étranger et presque exclusivement aux États-Unis. Mme Risky, dans son discours, n'a aucun cas répertorié au Québec. Pourquoi M. Dessureau? Fort simple, parce que le Québec a déjà un cadre législatif, 3 lois qui vont encadrer, 2 lois qui encadrent l'utilisation de vos renseignements personnels dont font partie les renseignements biométriques, et 1 loi qui s'adresse spécifiquement à l'utilisation de la biométrie et dans quel contexte on peut l'utiliser ou non. Et donc, le Québec n'est pas le désert législatif que Mme Risky veut bien laisser croire. Si on veut faire le débat, ben, il faut le faire sur la base de notre législation québécoise, premièrement. Deuxièmement, ma collègue Sonia Lebel a déposé le projet de loi 64 qui vient renforcer ce qui est notre loi d'accès à l'information pour calquer essentiellement le règlement général européen et qui ferait du Québec une des législations où le cadre juridique de protection des données, des renseignements personnels et d'utilisation de la biométrie serait le plus rigoureux en Amérique et serait un des plus rigoureux au monde, là, en incluant évidemment les pays européens qui ont déjà adopté ce règlement-là et qui sont en train de le déployer là, à géométrie variable dans les différents États qui constituent la communauté européenne. Donc, on est très, très loin des exemples américains que Mme Risky veut bien donner pour soutenir son argumentaire. Et il n'est absolument pas question pour la Sûreté du Québec de faire de constituer des banques de masse, de faire de la reconnaissance faciale de façon totalement aléatoire et arbitraire. Ce serait illégal au Québec de faire ça. La Sûreté du Québec n'a pas le droit de faire ça. La Sûreté du Québec n'aura jamais le droit de faire ça. Et ce que la Sûreté du Québec veut faire, c'est une utilisation d'une reconnaissance faciale pour des banques de données qui sont constituées de banques de gens qui ont été condamnés pour des crimes, donc qui sont des criminels avérés, et ça va se limiter à ça. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse le débat, et j'espère qu'on va faire le débat, mais il y a un projet de loi qui est sur la table, le projet de loi 64, qui va nous permettre d'avoir des consultations, qui va nous permettre d'avoir des débats, qui va nous permettre d'étudier article par article de quelle façon on peut renforcer un cadre législatif qui existe déjà. Donc, moi, je vois pas là qu'est-ce que c'est cette espèce de nouvelle croisade de Mme Risky là, qui fait abstraction complètement de la réalité québécoise et qui ne repose que sur la seule réalité américaine.
Ben, c'est dit. Monsieur Kerr, merci d'avoir été avec nous.
Ça a été un plaisir, M. Dessureau. C'est une très belle journée.
Vous aussi, Éric Kerr, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale et député de la Pelletrie. Donc, vous pouvez participer à cette consultation en ligne sur le déploiement là, d'une application pour retracer des cas, en fait, vous informer si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID-19. Mais je pense, là, si vous allez voir cette banque d'idées ou d'avis sur la question, il va y avoir du coucou pied carré là-dedans. Là. Je comprends que monsieur Kerr doit s'y attendre, mais des regroupements anti-ci, anti-ça qui vont sortir le grand discours là, sur la surveillance et les Bill Gates et compagnie. Je pense qu'on va filtrer ça quand même assez rapidement. Là. Alors, si vous êtes dans un de ces regroupements-là, je pense pas que ça vous... que ça vaut la peine de faire un document de 100 pages. Là. Je pense qu'on ça, on va les écarter assez vite. Est-ce que vous téléchargeriez ce genre d'application-là. Mais effectivement, il y a des experts qui peuvent très rapidement aller voir dans le code d'une application pour vérifier s'il y a des choses cachées. Mais je pense pas que ce soit dans l'intérêt du gouvernement du Québec, effectivement, d'en inventer. On verra si on se rend. Je pense qu'on va peut-être reculer. Je sais pas si on va se lancer vraiment dans ça. À suivre. Petite pause et on revient.